Le 13-14.
Le vif de l'histoire, continuons de profiter des festivals avant Cannes, que nous fera vivre Laurent Delmas à partir de demain. À votre place, cher Jean Lebrun, avec vous pour la dernière de la saison, donc Aix-en-Provence, le festival d'art lyrique. Portrait de l'instigatrice de ce festival, la comtesse Pastré, c'était il y a trois quarts de siècle, en 1948.
Le premier directeur s'appelait Gabriel Dussurget. Il avait créé pendant la guerre un bureau des concerts à Paris pour tisonner la braise de la musique malgré la guerre. Et à Marseille, restée en zone dite libre jusqu'en novembre 1942, la comtesse Pastré, elle, avait accueilli, en les dissimulant souvent, des dizaines d'artistes en difficulté, dont la liste remplit trois pages de la biographie que vient de lui consacrer Olivier Bellamy. Alors, Dussurget n'a jamais voulu dire son âge, il était coquet. La comtesse ne dissimulait nullement le sien. Le premier, d'ailleurs, décrit la seconde allongée sur une méridienne dans son salon. Elle a, dit-il, le corps du notarie.
Ah bah.
Le visage, ajoute-t-il, est celui de Louis XIV âgé, avec un nez busqué, surplombant une bouche au rouge accentué. Vous savez, comme le bec d'un aigle picorant une grosse tomate.
Charmant.
Lily Pastré, séparée d'un mari, le comte Jean, qu'elle avait trop aimé, c'était en effet un moment abandonné. Elle avait cessé de prendre soin de son apparence. Mais elle avait appris de la musique qu'elle adorait, que sa vie n'était pas finie et que la joie n'était pas morte. Alors dans le duo qu'elle allait former avec Dussurget, c'est elle sans doute qui eut l'idée d'un festival. Et c'est ensemble qu'ils allèrent visiter de nombreux sites en Provence avant de dénicher la cour de l'archevêché d'Aix. Et tapant ensemble dans leurs mains, ils en avaient vérifié l'acoustique, ce serait là. Et la comtesse, comme d'habitude, avait fait la première avance de fond.
Et Lily Pastré avait un physique particulier, mais elle était immensément riche.
Avant même son mariage avec le comte, rejeton du haut négoce marseillais, elle vivait de la fortune des Noailly-Pratt. Vous savez, la Rolls-Royce des Vermouths. Le public qui fréquente la partie de son domaine ouverte depuis qu'il est passé à la municipalité de Marseille peut en deviner la taille entre collines et calanques du côté de Pointe-Rouge, 130 hectares à l'origine. Un château et une villa dite provençale où habitait la comtesse. Entre 40 et 42, ses protégés artistes se pressaient à la table qu'elle tenait ouverte. « Où habitez-vous » demandait-elle parfois. Et elle s'entendait répondre « Mais chez vous ».
Et c'est là qu'elle organise en 1942, un soir de pleine lune, une représentation unique en plein air du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare qui est devenu mythique.
Combien de fois en ai-je entendu le récit par Boris Coquenot qui en était ? Boris le pétersbourgeois, un charme de serpent dans un corps d'ours, dit Olivier Bellamy. Il était le compagnon du peintre Christian Bérard, bébé, lequel était chargé des costumes qu'il n'hésita pas à tailler dans les doubles rideaux du château. La musique avait été commandée à un compositeur disgracié par Vichy, Jacques Ibert, et pour un orchestre dirigé par Manuel Rosenthal, composé d'une vingtaine d'instrumentistes, du chef aux interprètes, quasi tous des juifs, comme Clara Askill qui tenait le piano. Et parmi les faits, la silhouette de la jeune résistante Edmonde Charleroux. Au bas de la pente d'une clairière, des chaises avaient été disposées face au massif blanc d'une calanque qui renvoyait le souffle de la mer. Et peu à peu, au projecteur qui éclairait la troupe, s'était substitué la pleine lune. Le songe avait émergé dans cette lumière. Et après la représentation et un bal, chacun avait brûlé son habit de fête dans un grand feu. À la russe, disait Boris, ne reste de cette soirée que les gouaches de Bérard, quelques photos en noir et blanc et le grand souvenir.
Magnifique. Mais cette soirée, sans cette soirée, il n'y aurait pas eu de festival d'Aix-en-Provence ?
Ben oui, le festival, comme le Songe de 42 avec Bérard, comme les ballets russes dont était issu Boris Coquenot, a été fondé sur le principe de la correspondance entre une pièce de musique et un peintre. Et sur le plein air, avec cette musique divine, je cite François Mauriac parlant d'Aix, qui déconfinée du théâtre monte vers les étoiles et que la nuit accueille. Et commente.
La biographie d'Olivier Bellamy, La Folie Pastrée, est parue chez Grasset. Et le festival d'Aix dure jusqu'au 25 juillet. Vous trouverez les informations sur le site internet. Merci Jean Lebrun pour cette année pleine de savoirs, de parenthèses, d'anecdotes. Ça vous a plu vous aussi ?
Et de paradoxes. Ben on va peut-être empiler.
Oh mais j'espère bien, vous revenez ?
On va pas rester sur le bord de la route l'année de la présidentielle.
À la rentrée alors, merci Jean.